On admet communément qu'il y a des règles en musique, celles de la composition et peut-être même celles de l'improvisation. Elles régissent l'agencement des sons et permettent l'écoute d'un discours reconnu comme étant bel et bien de la musique. Pour certains, et peut-être encore plus de nos jours dans le paysage de la postmodernité, certaines de ces règles s'apparentent même à des lois universelles. Ainsi donc, à un niveau profond, il y aurait la loi. Celle de la résonance des corps, celle de la nature des sons, ou encore peut-être celle de la pulsation régulière. L'exploration des sons par les pythagoriciens traverse l'histoire des musiques occidentales et même orientales. Pour être plus précis, c'est plutôt le rapport entre les sons eux-mêmes que ces lois cartographient. La puissance du nombre, grâce auquel les intervalles musicaux se définissent, conduit à l'élaboration de ce vaste système qu'est l'harmonie. Dans une définition ancienne, l'harmonie désigne plus que la musique et apparaît comme part des lois de l'univers même. Une place pour la désobéissance peut sembler ici extrêmement réduite, voire impossible. En effet, ce n'est pas le musicien qui obéit à des lois ou des règles, mais la musique elle-même dans son essence. La pensée utopiste, celle des origines, de Moore à Bacon, est sans doute une première brèche dans une pensée de l'harmonie qui aurait à faire avec la transcendance. L'utopie affirme la fondation des systèmes selon des dispositions humaines et politiques. Il s'agit cependant de systèmes peu dialectiques qui ne pensent pas encore la contradiction. Un étonnant texte de Francis Bacon de 1623 nous montre que la musique se fonde sur la construction d'un système que l'expérience féconde. Écoutons-en quelques lignes. Nous avons aussi des maisons pour le son. Là, nous essayons tous les sons et mettons en évidence leur nature et leur mode de génération. Nous avons des gammes et des accords que vous ignorez, marchant par quart de ton, et des glissades entre les notes plus rapprochées. Pareillement, divers instruments de musique de vous inconnus, dont certains sont plus doux que ceux que vous avez. Des cloches et des clochettes aussi, délicates et douces. Nous savons produire des sons faibles, de telle sorte qu'ils apparaissent comme graves et forts. De la même façon, les sons très forts, nous pouvons les faire apparaître comme faibles et aigus. La poursuite de ce cheminement conduit à des positions qui intègrent comme force déterminante la société même qui sécrète la musique. Tout en se maintenant comme discipline du sensible, la musique apparaît également comme fait social, qui met en jeu les structures et les dispositifs des communautés humaines et les formes d'organisation politique. C'est cette tension d'un travail sur le sensible avec le social que s'articule la question de l'art et de la culture. Ainsi donc, la musique a des catégories, des genres, des modes de production, des assignations, des fonctions complexes et multiples. Elle a des usages qui, de nos jours, souvent se pensent dans les cadres liés à des institutions, une économie, une industrie. C'est dans ce contexte que les conditions d'un discours sur la désobéissance se posent. Considérer la thématique de la désobéissance uniquement sur le terrain du champ social et des conditions de l'art ne doit pas faire disparaître que c'est aussi sur le fondement même des lois de la musique que nous avons évoquées précédemment, qu'une désobéissance perdure comme enjeu artistique. Il ne s'agit pas ici d'un nouvel avatar de la question de l'art pour l'art en regard de l'art engagé, mais plutôt de l'exploration de l'engagement des conditions du sensible dans le champ politique ou de la critique sociale, le centre même de la condition esthétique. La tradition occidentale, selon une perspective de la pensée moderne, peut, sous certaines conditions, se voir comme un vaste processus cyclique de transition des règles qui aboutissent à un nouvel académisme, lui-même balayé par un nouveau cycle de transgression. Les règles de composition, qui valent à une époque, sont mises à mal et reléguées par la nouvelle génération des musiciens, qui à son tour se trouvera dépassée par la suivante. L'espace est né pour la querelle des anciens et les modernes, pour les révolutionnaires fustigeant les réactionnaires ou les futuristes faisant le coup de poing dans la salle de concert avec les passéistes. La limite de ce schéma serait de voir la désobéissance comme un fait méthodologique et structurel, paradoxe d'une désobéissance faisant système à travers l'idée de l'éternel retour de la table rase. Il est souvent admis que le XXe siècle de la musique est celui de l'élargissement de son matériau à tout ensemble de sons, ce que souvent les musiciens appellent dédaigneusement les bruits, disait Pierre Schaeffer. Avec ce nouveau prédicat, la musique peut tendre alors à se penser comme art des bruits ou avec Edgar Varèse comme son organisé. Il n'y a plus de corps sonores idéaux qui obéissent aux lois intangibles de l'harmonie, mais au plus radical, le flux continu du monde qui touche notre écoute. À la fin du XIXe siècle, le fracas sonore du paysage industriel conduit à ce remaniement profond. Nous avons tous aimé et goûté les harmonies des grands maîtres, nous en sommes rassasiés. C'est pour cela que nous prenons infiniment plus de plaisir à combiner idéalement des bruits de tramway, d'auto, de voitures et de foule criarde qu'à écouter par exemple l'Héroïque et la Pastorale, disait Rousselot en 1916. En un siècle, si l'ivresse des bruits industriels s'est le plus souvent transformée en nuisance sonore, ce n'est pas pour réinstaller la pureté sonore harmonique, mais pour inviter à la prise en considération sensible du paysage sonore et les réinventer dans les arts sonores. N'oublions cependant pas les autres voies de la désobéissance qui ne travaillent pas la pensée du matériau sonore et des règles de composition. Celle qui se situe dans la mise en jeu des usages sociaux et politiques, autre terrain, peut-être encore situé du côté de la question de l'art engagé et qui aborde différemment la question de la désobéissance en art. Les deux modalités ne sont pas forcément antagonistes et présentent parfois des convergences et des cohérences. Le paysage musical actuel est violemment bousculé par les technologies dont les conséquences agissent sur les formes musicales, mais également sur les usages, sur les différents statuts qui touchent à la production industrielle ou à son refus, sur les limites du savant et du tout populaire, ainsi que sur la définition des droits du créateur. Quelque peu de radicalité. 1. Cage et l'anarchisme. John Cage pose d'une manière radicale la question de la composition musicale. Dans le mouvement de l'émancipation sonore, il est certainement une voix singulière. Partant d'une certaine forme d'anarchisme américain, celle de Thoreau, Cage pourrait paraître comme un simplificateur ultime de la conception du musical. En effet, de la proposition de la musique comme dispositif de son organisé, c'est le terme même de « organisé » qui est ici questionné. Je n'ai jamais écouté aucun son sans l'aimer. Le seul problème avec les sons, c'est la musique. Ce titre d'une conférence de Cage nous permet de toucher à cette pensée particulière. Ne resterait-il ainsi plus que le son ou les sons? Tous, dans leur diversité, sans hiérarchie ni système de classification. Loin de Pierre Schaeffer, qui cherchait pour sa musique des bruits les sons de bonne facture. Cage se place donc parfois dans une certaine fraternité avec Thoreau, qui affirme que l'écoute de la nature peut se substituer à toute musique dûment composée. Que reste-t-il alors du compositeur une fois qu'il abandonne toute velléité d'organiser les sons? Dans une pensée de l'indétermination, Cage abandonne l'idée de compositeur comme pourvoyeur d'organisation des sons au profit d'une activité tendant simplement à faire émerger et vivre le sonore. « I love sounds just as they are », annonce Cage dans une de ses dernières interviews. La radicalité de la proposition n'est pas exempte de contradictions, au premier rang desquelles celle de l'existence d'une musique de John Cage qui peut donner lieu à reconnaissance stylistique et à caractérisation de genre. Néanmoins, les propositions du compositeur demeurent d'une influence primordiale pour une réflexion sur l'idée même de composition. De la flèche causale qui va de la composition à l'écoute en passant par l'interprétation, si ces activités peuvent s'autonomiser, on comprend l'ouverture radicale que cela implique pour l'idée même de règle. L'indétermination diffère de l'improvisation dans le sens où le jeu de l'instrumentiste, sans être sollicité par une écriture, reste conduit par des processus ou des propositions qui le préviennent du discours improvisé, lui-même articulé sur une grammaire stylistique donnée ou sur ses propres schémas ou poncifs. Un processus indéterminé chez Cage est souvent un dispositif extrêmement précis de mise en œuvre visant à l'apparition des sons. Dans ce cadre, la partition, dans le sens le plus général qui soit, ne rend pas entièrement compte du résultat sonore, éventuellement même pas du tout. Chaque nouvelle exécution donnera un résultat différent. Quel que soit ce résultat, celui-ci sera bon dans la mesure où les sons et les silences auront existé. Nous connaissons ainsi les multiples partitions de Cage où l'instrumentiste doit suivre un système graphique de toute provenance, carte du ciel, tache sur les feuilles, profil de Marcel Duchamp, plan du jardin Zen Royanji à Kyoto. Pour certaines partitions, les noms sont tirés au hasard en utilisant le hicking ou tout autre processus. Dans Roratorio, la bande magnétique sur laquelle figure un orchestre traditionnel irlandais, un long texte récité par Cage lui-même est également composé de tous les sons évoqués dans Finnegan Wakes, ainsi que les enregistrements sonores opérés sur les lieux du roman. On pourrait ainsi démultiplier et développer les exemples de mise en œuvre du hasard visant à l'indétermination et à la non-prise de pouvoir du compositeur sur les sons. Quand Cage utilisera le célèbre texte de Thoreau de la désobéissance civile, c'est pour le transformer implacablement par le processus littéraire du mésophis. Il devient ainsi impossible d'obéir à la structure même du texte sur la désobéissance. On connaît cette première phrase du texte qui dit « Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins », suivi quelques lignes après par « Le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas du tout ». Le parallèle avec l'art de Cage est peut-être possible. Le compositeur ne gouverne pas les sons, il les laisse simplement exister. Il est possible, sans doute légitimement, de voir dans une telle proposition une impasse. Le fait paradoxal qui s'ajoute est que finalement, ce terrain de la radicalité n'admet difficilement d'autres praticiens que Cage lui-même. Néanmoins, on peut sans doute retenir différents aspects qui vont d'une attitude générale de dépsychologisation de la musique à la mise en évidence de processus réellement porteurs de créativité. L'anarchisme de Cage n'est pas celui de l'action sur le terrain politique. C'est sans doute cela qui le rapprochera de plus en plus de la philosophie zen. Fondamentalement individualiste, il se méfiera toujours des groupes et des associations et ne s'intéressera, semble-t-il, peu ou pas aux mouvements protestataires des années 60 qui s'exprimeront aux États-Unis. Autre cas d'école de radicalité. Le free jazz pourrait certainement apparaître comme un idéal type de désobéissance sur un autre terrain que l'indétermination cajienne qui, en dépit de ses filiations avec Thoreau, demeure une certaine forme d'apolitisme, une mise à distance de la dialectique, un évitement de la contradiction par une certaine utopie. Le free jazz prend à bras le corps la question de la musique, aussi bien du côté de sa grammaire que celui de ses ressorts sociaux et politiques. En affirmant le primat de l'improvisation collective, la liberté de jeu, le dépassement de la technique instrumentale et la force revendicatrice, cette radicalité-là demeure du côté d'une désobéissance assumée dans la mesure où elle est celle de groupes ou de collectifs d'artistes. La dimension politique y est complexe et multiple, à la fois liée à la question de l'histoire de la culture afro-américaine de cette époque, à la charnière des années 60, mais également en frottement avec les musiques réputées savantes des avant-gardes occidentales. L'éclatement des structures musicales joue ici en miroir avec les mouvements d'émancipation politique, mais également comme l'affirmation d'une puissance esthétique originale. Pour rendre plus précis, suivons un chemin moins historiciste qui risquerait de faire comprendre ce moment musical que comme une essence de forme d'art engagé. Dans un article de 1967, ironiquement appelé « La chose », le free jazz était baptisé « la new thing », Georges Perec développe, avec le free jazz comme objet, la question de la liberté et de la contrainte qui traverse, on le sait, l'ensemble de son œuvre littéraire. On y lit, au-delà des critiques connues sur le free jazz, abandon de la grille harmonique et de la pulsation, non pas un développement sur celle-ci qui pourrait ramener à cette idée des règles universelles de la musique, mais un éclairage qui peut nous questionner dans nos pratiques quand il s'agit de penser la force de la règle et des contraintes. Ainsi, le free jazz est vu comme un système qui n'échappe pas, en dépit des apparences, à ce double raison littéralement fondateur selon Perec, d'une dialectique entre liberté et contrainte. Une phrase éclairante du texte pourrait être celle-ci. Il n'y a pas de système plus ou moins libre ou plus ou moins contraint, parce que contrainte et liberté constituent précisément le système. Fin de citation. Cette force à interroger d'une manière différente l'idée d'une musique qui se déclarerait comme forme libre, ce sabotage, comme le dit Perec lui-même, de la structure harmonique et mélodique et de la pulsation rythmique, comme métaphore de la révolte sociale. Un peu plus avant, dans son texte, Perec pose cette question qui pourrait sans doute, en l'étendant, nous fournir l'une de nos pistes de discussion. Le free jazz pose donc une question et une seule. Que se passe-t-il quand des musiciens, entreprenant de jouer ensemble, en abandonnant tout ce qui auparavant assurait nécessairement leur cohérence, quand ils se donnent pour seule règle l'absence de règles, quand ils décident de n'obéir à aucune contrainte et que l'unique précision du contrat qui les lie stipule en tout et pour tout que chaque musicien joue ce qui lui passe par la tête. Fin de citation. Même si le free jazz ne peut entièrement se résoudre dans ses propositions, le temps passé ayant affiné notre écoute, il reste possible d'en tirer des forces pour poursuivre à renouveler l'expérience artistique. D'autres radicalités pourraient être développées, chacune avec leur spécificité. sur des terrains différents, nous pourrions évoquer les avant-gardes musicales de l'après-guerre, les musiques électroacoustiques, le rock et le mouvement punk de la fin des années 70, les artistes de l'improvisation libre qui ne se confondent pas avec les free jazz, les musiques électroniques et bruitistes aux confins des musiques populaires de recherche et des dispositifs de l'industrie culturelle. Le protéiforme mouvement des arts sonores aux limites des disciplines. Tous travaillent à la fois le terrain de l'expérimentation et des conditions sociales d'existence, des pratiques et des usages, le terrain même des désobéissances.